Salut, salut, bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la ligne, le radio podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale en compagnie de mes traditionnels collaborateurs. Nicolas Richard, dans ton appartement beaucoup plus meublé que la semaine passée, comment te portes-tu? Ou t'as juste changé l'angle peut-être?
J'ai changé l'angle, voilà. Mais gros week-end.
On a hâte à la crémaillère déjà, ça a l'air pas mal chic.
Ah oui, il y aura plusieurs pochettes et pogo au menu, messieurs.
J'amène les babdous. J'amène les
babdous. Ce sera un festin. Mais non, gros week-end, encore une fois, de tennis, de ski, de football. Bref, c'est jamais reposant, celui-là, le monde du sport.
Ouais, ben surtout que toi, on le sait, tu es un excellent généraliste également. Je doute pas que tu as gardé les yeux sur le foot en fin de semaine, notamment. Hugues Léger, hier, tu étais en compétition. Comment ça s'est passé?
J'ai gagné mon match d'hier soir.
Bon, voilà, c'est ça.
Mais je découvre que la catégorie vétéran, 55 ans et plus, est plus forte qu'à la 50 ans et plus. Fait que je pense redescendre de catégorie au prochain tournoi, ça va être plus facile.
OK, donc en ce moment, tu es dans la catégorie plus forte.
55. Ah, non, plus vieille. Sauf que tu peux jouer si tu es plus vieux avec les plus jeunes et non l'inverse, évidemment. Fait que j'aurais accès à jouer pour les 50 plus. Donc, je songe à me rétrograder vers les 50 ans et plus.
Autrement dit, un creux de vague entre 50 et 54.
Moi, entre 54 et 55. Il y a des joueurs vraiment supérieurs dans les 55 ans et plus.
Moi, je vais composer avec ça. Tu pourrais même aller dans les 25. Ils ne te carteront même pas. Ils ne te carteront même pas. Hey, les gars, je suis content de vous retrouver. Pas déçu que l'Australie soit derrière nous maintenant, messieurs, parce que c'est pas le tournoi le plus facile à suivre. Mais quand même, c'est un tournoi de puristes. Je vais dire ça comme ça. Là, je pense que c'est un tournoi de puristes. Pour le grand public, c'est peut-être un peu moins accessible. Moi, je l'ai aimé, mon tournoi. Mais c'est vraiment un tournoi de puristes. Commentaire général, Hugues, sur ce tournoi-là, là, avant qu'on rentre dans les détails.
Bon, vous voyez que je porte mon T-shirt Union Jack aujourd'hui parce que, selon moi, Andy Murray a sauvé l'Open d'Australie cette année. Pour le grand public, on s'entend. Avec ses performances de premier et deuxième tour, ses remontées et victoires en 5-7, dont le match contre Kokkinakis, qui est peut-être un des meilleurs matchs du tournoi. Donc, Andy Murray a fait en sorte que l'intérêt du grand public a été là. Cela dit, on a eu un week-end de finale exceptionnel. Donc, bravo à tout le monde. Je sais que beaucoup de gens dans l'équipe avaient pris Djokovic et Sabalenka comme vainqueurs, ce qui est arrivé. Je pense que les finales ont été excellentes, tant du côté homme que du côté femme. Mais quand même, l'Open d'Australie, cette année, pour moi, est un tournoi en demi-teinte.
Ouais, on aura l'occasion d'en reparler. Il y a beaucoup de choses en demi-teinte au niveau, j'allais pas dire relations publiques, mais code d'écoute. En tout cas, on en reparlera un peu plus tard dans l'épisode. Nicolas, commentaire général sur ce tournoi. Comment as-tu apprécié ces internationaux d'Australie 2023?
J'ai beaucoup apprécié pour deux raisons. D'abord, Hugues l'a dit, des finales à couper le souffle, des finales qu'on avait prédit aussi, hein, chose que je vais souligner parce que trop rarement j'ai de bonnes prédictions. Mais pour en revenir aussi, ce que je retiens, puis je vous donne en mille un peu l'angle de mon papier de demain dans la presse, là, puis Hugues porte fièrement le chandail britannique, je trouve que c'est une belle claque au visage pour Wimbledon. Pour plusieurs raisons. D'un côté, la finale des femmes, on a une Sabalenka qui n'a pas pu y participer, et une Rybakina qui a gagné, mais qui n'a pas pu avoir tous ses points. De l'autre côté, Djokovic, qui a participé également, qui a gagné, qui n'a pas pu avoir tous ses points. Et je serais curieux de reprendre les internationaux d'Australie avec le classement qui aurait été avec Wimbledon ultimement, parce que ça aurait pu changer la donne complètement, parce qu'une Rybakina aurait joué top 10, parce qu'un Djokovic aurait été premier mondial. Bref, le tableau aurait été complètement différent. Donc, six mois plus tard, je suis heureux de voir que c'est peut-être une petite claque au visage de Wimbledon qui avait été un fiasco, souvenons-nous, du début à la fin.
Nicolas, quel beau sujet. Moi, j'ai le bâton de pèlerin sur ce dossier-là depuis des mois. Ça a affecté le classement depuis Wimbledon l'an passé. Les joueurs russes qui n'ont pas pu compétitionner, pour moi, sans raison. C'est un choix du gouvernement britannique et non du All England Club. Il y a eu une pression énorme pour que l'All England Club refuse les joueurs russes. Et la réponse de la TPWTA d'enlever les points pouvait s'expliquer, mais je pense qu'avec le recul, les deux décisions ont été des mauvaises décisions. Je pense que si c'était à refaire, là, ça a eu un impact toute l'année. Et encore maintenant, tu le dis, écoutez, Rybakina était 22e favorite en Australie. Heureusement, avec ses points qu'elle vient de faire, elle se retrouve dans le top 10 ce matin. Mais Rybakina n'aurait pas joué Iga Świątek si tôt dans le tournoi en Australie. Fait que le sujet que tu vas traiter dans la presse demain, je pense qu'il est très important, que les gens aient un éclairage là-dessus. Donc, super.
Mais ça, Hugues, on aurait pu croire que tu parles de l'affrontement Sabalenka-Świątek, que je trouve intéressant parce que c'est un cas de figure qui je pense, prête bien. Ça aurait pu désavantager Rybakina, mais ça a désavantagé Świątek parce qu'elle a pris une fille qui était classée 22e, qui était réellement une fille du top 10. Donc, on s'entend que si Świątek avait affronté une fille 24e, ça aurait été peut-être plus simple pour Świątek, qui aurait pu continuer un bout de chemin dans le tournoi. Mais ça n'a pas été le cas parce qu'elle a affronté dès le quatrième tour une fille top 10, ce qui fait aucun bon sens.
Et un dernier petit exemple, parce qu'on va continuer après sur l'Australie, mais rappelez-vous du deuxième tour à Montréal, Kyrgios-Medvedev. C'est pour la même raison. Donc, Kyrgios, qui était hot à ce moment-là, on s'entend, mais n'aurait pas dû rencontrer Medvedev si tôt, ce qui fait que Medvedev s'est fait sortir au deuxième tour à Montréal, ce qui est une anomalie complète et qui était le résultat des points non accordés à Wimbledon.
Ben, écoutez, ça change la nature du classement, ça change la nature du tennis et pour ça change la nature des tableaux pour un an. Écoute, dans notre discussion de groupe, on avait des opinions un peu différentes sur le pourquoi, là, mais il reste que quand même, on change la nature du sport et on change la nature des tableaux. Puis ça, ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans une compétition. Avant qu'on tombe sur le résultat, j'accueille Isabelle Étier, notre collaboratrice. Comment as-tu vécu ton tournoi à Melbourne 2023?
Pas constant cette année. Je pense que c'est un retour à la normale, puis je fais des guillemets avec mes mains. Donc, c'est un peu plus difficile de suivre de nuit ce super tournoi, bien que je me suis levée une couple de nuit, j'ai fait un peu d'insomnie, donc ça m'a permis de pouvoir regarder en direct. Mais moi, j'ai beaucoup aimé les performances. J'ai trouvé que c'était très intéressant. J'ai découvert des joueuses et des joueurs justement parce que c'était pas nécessairement les mêmes qu'on était habitué de voir dans tout le parcours. Mais en gros, ça s'est bien passé de mon côté.
As-tu eu des coups de cœur? Tu dis que tu as découvert des joueurs et des joueuses. As-tu eu un coup de cœur, un joueur que tu vas peut-être suivre pour un peu plus avec un peu plus d'intérêt d'ici la fin de l'année?
Je suis pas super bonne avec les noms, je vais être très honnête. Là. Puis surtout lorsqu'on doit prononcer. Je pense que c'est en général. Ce que je déplore, par exemple, mon seul point, je trouve qu'on ne montre pas assez de tennis double à la télévision. C'est moins accessible. On est beaucoup sur les compétitions en simple. Et j'aurais aimé ça, avoir accès plus régulièrement à du tennis en double, à part d'être dans des chaînes spécialisées. Là, je parle vraiment lorsqu'on est soit à RDS, soit à TSN.
Tu as trois personnes devant toi qui seraient sûrement d'accord avec ça. La seule complexité là-dedans, c'est que souvent, l'horaire des doubles est placé dans des endroits un peu de filler, si on veut. Là. Alors, pour les télédiffuseurs, c'est un peu plus compliqué. Mais il faudrait peut-être effectivement qu'on commence à se poser la question, à savoir comment est-ce qu'on peut mettre de l'avant plus le double. Parce que dans des compétitions comme la Coupe Davis, ce sont des matchs spectaculaires, on le sait, ce sont des matchs regardés aussi. Alors, il y a certainement un intérêt pour le double. Isabelle, on va faire l'analyse du tournoi. Je te ramène un peu plus tard dans l'épisode. Tu as un sujet bien intéressant pour nous. On s'en reparle un peu plus tard dans l'épisode. Messieurs, parlons de Novak Djokovic. À tout seigneur, tout honneur, un 10e et monstrueux titre. Il a paru à certains moments presque invincible. Nicolas Richard, qu'as-tu pensé de la performance, une fois de plus instante, de Novak Djokovic?
Je pense qu'il n'y a plus photo, les gars. Là. Djokovic a pris le fameux débat du GOAT, là, du plus grand de l'histoire. C'est lui. Je veux dire, il n'y a pas photo. Oui, Federer. Ce qu'il a montré en fin de semaine, ça a été sans faille, du début à la fin. Le gars, il a 35 ans, on dirait qu'il en a 25. Je suis convaincu, puis je maintiens ma prédiction, les gars. Il va gagner le Grand Chelem cette année. 4 tournois majeurs, ça va lui en faire 25. Donc, il est seul dans sa catégorie. Même un gars comme Tsitsipas n'a pas pu arracher. Jamais Djoko est en difficulté. de bout en bout. Puis tu sais, on se rappelle, là, lorsqu'on a parlé il y a une semaine, on se disait, oui, c'est facile pour Djoko, mais attention, contre André Roublev, simple, cinquième tête de série, il a lavé André Roublev, ça n'a même pas été chic. Il est seul dans sa catégorie. Heureusement, il a enfin le titre de numéro un mondial, le titre qui lui est dû depuis au moins un an. Donc, je suis heureux pour lui, puis c'est une fois de plus démontré que l'Australie, c'est chez lui.
Ben Nico, tu m'as devancé parce qu'on va le relancer, le débat du GOAT. Je l'ai dans mes sujets dont on va parler aujourd'hui. Hugues, commentaire oui. sur la performance de Novak Djokovic.
Bon, premièrement, le vrai numéro un est de retour à sa position. Ça, c'est le premier point. Ouais. Deuxième point, 374e semaine qui débute aujourd'hui, lundi, le 30 janvier, à la place de numéro un. C'est 64 semaines de plus que celui qui le suit derrière un certain Roger Federer. Donc, il se détache de façon incroyable. Au niveau des titres majeurs aussi, il est largement devant maintenant. Et là, je pense que la course maintenant est avec Serena Williams pour le GOAT. Hommes et femmes, Serena est à 23 titres en Grand Chelem. Donc là, on est rendu là pour Djokovic. Mais comme je nuançais ce week-end dans mes interventions et avec Jean-Charles Lajoie et avec Paul Oud, le GOAT pour moi, oui, au niveau des chiffres, c'est sans équivoque maintenant. La messe est dite, OK? Djokovic va avoir les meilleurs chiffres de tous les temps. Et moi aussi, je pense qu'il est parti pour le Grand Chelem cette année. Cela dit, il faut mettre d'autres éléments là-dedans. Puis je parlerai des cotes d'écoute assez mauvaises du Australian Open cette année, qui ne sont pas étrangères à ce sujet-là, qui est Novak Djokovic. Les éléments d'intérêt pour le sport, de participation, d'affection pour le tennis, qui sont tous mesurables en passant. Là. Quand, y a-t-il des nouveaux gens qui s'inscrivent au tennis, aux ligues et tout ça? C'est sûr que Djokovic n'aura pas eu le même impact, en tout cas à ce jour, sur son sport qu'un Nadal ou un Federer, qui ont drainé, attiré beaucoup de gens et amené beaucoup de notoriété autour du tennis. Donc, le débat du GOAT, c'est sur ces éléments plus subjectif, qualitatif, mais quand même mesurable qu'il faudra l'avoir. Mais au niveau des chiffres, Djokovic et le GOAT, assurément.
Ben, c'est pas la première fois que tu abordes le sujet en ce sens-là. Souviens-toi, tu nous as déjà parlé à plusieurs reprises qu'au niveau des commandites, il ne justifiait pas son statut de joueur aussi dominant à sa place dans l'histoire.
Clairement.
Comme Federer et Nadal l'ont fait. Alors, oui. Il était toujours en déficit, je veux dire, monétaire d'une certaine manière, par rapport à ce qu'il aurait pu dû avoir.
En fait, c'est son ratio bourse-commandite qui est complètement disproportionné par rapport aux autres. Là. Donc, au niveau de ses gains, là, il y a peut-être, je n'ai pas les chiffres devant moi aujourd'hui, là, mais il doit être à 60% de ses revenus qui viennent des gains, à 40% des commandites, alors que pour tous les autres grands joueurs connus, Nadal, Federer, c'est l'inverse, en fait. Ces ratios sont inversés. Donc, c'est la preuve qu'il y a moins d'intérêt pour les commanditaires à s'associer à lui, qui parle moins à plusieurs audiences que les commanditaires voudraient rejoindre. Cela dit, je lève mon chapeau à Lacoste tout de suite, qui a mis un beau 22 avant la finale sur son jersey qui a pu porter lors de la remise des trophées. Donc, chapeau à Lacoste. Et on reviendra un petit peu sur les chiffres de l'Open d'Australie plus tard. Yes. Mais effectivement, Djokovic est le plus grand au niveau des chiffres et ce n'est qu'un début encore pour lui. Il reste encore une, deux, trois bonnes années devant lui encore et sa dominance en Australie cette année est vraiment admirable, surtout dans le contexte. Et on a vu comment il s'est effondré à la fin. Il portait beaucoup sur ses épaules depuis un an, sûrement par sa faute un peu, mais il mérite très bien cette victoire.
Ben, c'est intéressant ce que tu dis, Hugues, parce que j'allais justement aller là. C'est que, bon, il y a quelque chose de fascinant dans le cas de Novak Djokovic, c'est sa capacité à bloquer le bruit autour de lui et à performer malgré un contexte, disons-le, encore une fois difficile et encore une fois controversé. Bon, il y avait tout ce qui s'était passé l'année passée, mais là, pendant le tournoi, il y a eu l'affaire de Poutine avec son ouais. père également, d'autres bruits qui s'ajoutent. Alors, il a une capacité phénoménale à performer malgré ça.
Il se nourrit de ça. Je crois qu'il se nourrit de ça, Alex. C'est vraiment une grande force. Puis dans son discours d'acceptation, il a dit à tous ceux qui ont des enfances difficiles, qui vivent dans des conditions particulières et tout ça, croyez en vos rêves, vous pouvez y arriver. C'est vraiment le message qu'il porte et qu'il l'anime match après match, tournoi après tournoi.
Mais en même temps, ce n'est pas une victoire. Tu sais, ça devrait être une victoire qu'on célèbre comme une des plus grandes victoires de l'histoire du tennis, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul autre homme qui a fait le 22e Grand Chelem, mais on en parle, comme tu le disais si bien, en demi-teinte, en disant d'accord, c'est encore une victoire, mais elle est encore dans la controverse dans le cas de Novak Djokovic. Et ça revient à ce que tu nous disais tout à l'heure. Je ne sais pas, Nicolas, si tu voulais acheter quelque chose là-dessus.
Ben, j'allais simplement dire que pour ajouter à cette étiquette de Joker de Novak Djokovic, je m'imagine seulement le fait qu'il devine le plus grand de l'histoire avec 23 grands chelems à Roland-Garros, dans la maison de Rafael Nadal, qu'il battra du même coup. Je pense, puis je me mets dans l'état d'esprit de Djoko, il doit saliver. Sa saison sur terre battue va être extraordinaire.
Moi, je pense pas qu'il va faire le grand chelem. Je pense que Casper Ruud va remporter Roland-Garros. Et puis, d'une manière ou d'une autre, il devra battre Novak Djokovic quelque part dans le tableau. Alors, je pense que Casper Ruud va briser le rêve de Novak et le vôtre, messieurs. Mais enfin, il faut reconnaître l'exploit sportif. C'est phénoménal ce qu'il a fait. Et ça m'amène à poser la question, bon, est-ce qu'on relance le débat du GOAT ou est-ce qu'il est terminé, en tout cas d'un point de vue statistique?
Ben c'est ça, la différence, Hugues l'a bien dit. Pour moi, il y a une dichotomie entre être le plus grand de l'histoire et être le meilleur de l'histoire. Le meilleur, c'est Djoko, il n'y a pas de doute. Dans son prime, il bat n'importe qui a une raquette dans ses mains. Mais pour ce qui est du plus grand, pour ce qui est de l'impact médiatique, de son influence sur les jeunes, de la façon dont il a joué, de la façon dont il a choisi de vivre sa carrière, pour moi, c'est Federer. Pour moi, c'est le plus grand ambassadeur de ce sport-là. Mais le meilleur joueur de tennis de l'histoire de la galaxie, c'est Novak Djokovic.
Hugues, j'imagine que tu es assez d'accord avec
ça. Un peu la même chose. Je pense que les trois, en fait, vont ressortir avec des attributs qui les placent au plus haut niveau. Je pense que le compétiteur le plus hargneux, le plus incroyable dans les revirements qu'il a pu créer, c'est pour moi Nadal. Je pense à la finale, d'ailleurs, du Australian Open contre Medvedev. L'an passé, j'en revenais tout simplement pas. Là. Comment il a pu remonter de 2-7-0, balle de 4-2 ou de 4-1 contre lui et qu'il a réussi à revenir, c'est totalement incroyable. Mais le fait que Nadal a remporté la majorité de ses grands chelems sur terre battue à Roland-Garros, les gens vont dire que c'est un joueur qui est moins équilibré que les autres. Djokovic est peut-être celui qui a la meilleure proportion entre les quatre grands chelems. Mais effectivement, il va y avoir un débat qualitatif plus subjectif sur qui est le GOAT par rapport à ces éléments-là, mais sur les chiffres, purement et simplement, c'est Djokovic qui est déjà le GOAT.
Bon, mais on n'aura jamais eu un débat aussi simple parce que les trois, on est absolument d'accord. Je pense qu'il y a effectivement plus photo au niveau statistique, surtout considérant que Nadal, ce serait surprenant qu'il fasse plusieurs grands coups d'éclat d'ici la fin de sa
souhaitons,
carrière.
Souhaitons qu'il se rende pour nous tous, à tous les fans qui nous écoutent et nous au podcast, qu'il puisse jouer à Roland-Garros. Moi, j'ai peur qu'il ne se rende pas à Roland-Garros, Nadal.
Mais ce serait quand même splendide, les gars, que la finale de Roland-Garros, puis je me projette, là, que ce soit Nadal contre Djoko avec à l'enjeu le record absolu, tu sais.
Ouais.
Et une retraite de Nadal avec le trophée.
Possiblement le dernier match de Nadal, ce serait hallucinant. J'en salive déjà.
Ben, ce serait un scénario très romantique. Nicolas Richard, on sait que tu es un romantique du sport. Voilà. Moi aussi, je serais très partisan de ce scénario-là. Avant qu'on passe du côté des femmes, messieurs, un petit mot sur Stefanos Tsitsipas. C'est une autre défaite en Grand Chelem. Est-ce qu'il remportera un jour un titre Grand Chelem, selon vous, Hugues Léger, aucun doute?
Oui, je pense que oui. Je pense que Djokovic a été extrêmement smart tactiquement dans ce match. Il l'a attaqué sur sa force au premier set et ça a déstabilisé Tsitsipas. Ça a pris du temps avant qu'il rentre dans le match. Il a perdu le premier set 6-4, si je ne me trompe pas. Mais parce que Djokovic a attaqué là où il ne l'attendait pas. Donc, c'est ça qui l'a ébranlé. Après les deux autres sets, 7-6, 7-6, très serré, ça serait pas allé d'un côté comme de l'autre. Mais Tsitsipas a fait un bon tournoi, a joué une bonne finale quand même. Et je pense que oui, il va remporter un grand chelem et que c'est un prétendant à être numéro un. Mais je ne sais pas maintenant, je ne peux pas le dire qui de Alcaraz, de Tsitsipas, de Medvedev, de Félix, de Holger Rune qui montre qui est le réel prétendant à être prochain numéro un parce que Djokovic est encore parti pour la gloire cette année.
Nico, est-ce que Tsitsipas, c'est the next big thing?
Il a ce qu'il faut pour le faire, mais ce qui me fait hésiter, c'est qu'il n'est pas le meilleur sur aucune surface. C'est-à-dire qu'il n'est pas dominant sur terre battue. Ouais. Il n'est pas dominant sur dur. Il n'est pas dominant sur gazon. Il est bon partout, mais sur chacune des surfaces, il a des adversaires, des rivaux qui sont meilleurs que lui. Il a un talent indéniable. Il a, je pense, le caractère nécessaire pour aller jusqu'au bout. Mais je ne suis pas aussi convaincu qu'Hugues Léger, mais je pense quand même qu'un jour, il va y arriver. Mais je ne pense pas qu'on puisse compter sur les doigts d'une main le nombre de grands chemins qu'il va avoir. Sur les doigts de deux mains, pardon.
En même temps, dans les joueurs qui étaient, bon, il n'y a pas si longtemps considérés comme la next gen, Titi Paz est le seul qui a deux finales de Grand Chelem. Bon, il y a Alcaraz qui en a un au US Open, mais bon, c'est quand même pas indéniable comme performance. Alors, vous êtes quand même convaincu que c'est une belle performance pour Titi Paz dans les circonstances. Oui. Et bon, quand t'affrontes peut-être le plus grand de tous les temps sur le terrain, ben c'est pas...
Ah oui. Attention, excuse-moi, je veux rajouter, parce qu'on ne l'a pas dit dans le débat du GOAT, c'est une des premières fois, peut-être la première fois que j'entends un joueur dire au grand public dans une acceptation de trophée, Titi Paz, que Djokovic est le plus grand joueur qui a tenu une raquette dans ses mains. Tu es le plus grand joueur de tous les temps. Moi, je n'avais jamais entendu ça. Là. Donc ça, c'est un sacré statement de son adversaire en finale quand même. Je tiens à souligner.
Ouais. Et je pense que, je ne sais pas si vous avez écouté la conférence de presse de Novak Djokovic après, là, pas sur le terrain, mais avec le trophée dans la salle de conférence. Et de la façon dont Novak parlait, bon, il disait « je vais laisser le débat aux autres », mais de la façon dont il parlait, il se considère, je pense, déjà lui-même comme le plus grand, mais avec raison, d'une certaine manière. Bon, messieurs, passons du côté des femmes. Ça a été un tournoi vraiment intéressant du côté des femmes. Oui. Comme je disais, pour un tournoi de puristes, là, je veux dire, nous, on est des tripeux. Là, oui. Moi, j'ai écouté la finale en direct. Là, vous l'avez vu, là, je donnais mes impressions à 4h30 du matin. Ben, c'était plus pour me laisser des notes, finalement, là, pour quand j'allais en parler le lendemain, mais il reste que ça a été un tournoi surprenant, je vais le dire comme ça. Mais la finale, est-ce qu'elle l'est tant que ça, Nico?
Ça fait extrêmement longtemps, du moins je ne me rappelle pas la dernière fois où j'avais eu aussi hâte de regarder une finale féminine. D'un côté, Sabalenka, qu'on avait identifié comme étant la prétendante au titre. De l'autre, Rybakina, qui voulait, je pense, prouver à tout le monde que son titre à Wimbledon n'était pas une erreur de parcours. Exact. C'était un duel tellement inspirant. Pour moi, c'est ça une finale de Grand Chelem. Des rebondissements, aucune perfection de part et d'autre. Sabalenka en a arraché au service, mais en même temps, elle était tellement bonne sur ses coups droits que ça a été, elle a comme justifié le fait qu'elle était possiblement la meilleure joueuse au monde à ce moment-là sans Grand Chelem. De l'autre côté, Rybakina, qui est, je pense, extrêmement sous-estimée, va plaire à beaucoup de gens, puis j'espère que bien des gens l'ont découverte au cours de cette semaine-là. Mais non, c'était une finale âprement disputée entre deux joueuses qui, je pense, sont actuellement les deux meilleures joueuses au monde. Mais outre ça, pendant le tournoi, on a vu le retour d'Azarenka qui jouait comme en 2012. On a vu une Pegula qui est de plus en plus confiante. On a vu des surprises Swiatek. Comment va-t-elle réagir au fait de s'être fait sortir au quatrième tour? Bref, ça a été vraiment... C'est une belle prémisse pour l'année à venir.
Oui, Hugues. Ah oui, très. Écoute, je pense que la finale féminine était au-dessus de la finale masculine en termes d'intensité, de qualité de jeu.
Et de loin.
Général, je dirais de part et d'autre, le niveau de puissance, de précision, de rapidité dans le jeu, c'était de toute beauté. Vraiment une très, très belle finale féminine qu'on a eue entre Rybakina et Sabalenka. Sabalenka qui finalement a passé le cap et a réussi, malgré sa nervosité et des moments où elle a reflanché dans le passé, c'était un peu devenu l'éternel deuxième, troisième Sabalenka. Bien là, elle a réussi à gagner son premier grand chelem. Elle était prête, elle l'a mérité, on l'avait prévu, on le souhaitait. Bien, je suis vraiment content pour elle. Très, très belle championne de l'Open d'Australie. Si vous n'avez pas vu les photos habituelles avec le trophée avec qu'elle a fait le lendemain sur le bateau avec sa robe rose, c'était vraiment sympathique. Là. Elle a un sourire radieux. Des très, très belles photos là, de célébration de Sabalenka. Et je tiens à souligner quand même Rybakina avec 44 as durant ce tournoi-là. Je vous écrivais sur notre fil, les gars, avec des statistiques comme ça au service. Attention encore à elle à Wimbledon cette année parce qu'on sait que c'est une surface rapide. Donc, Rybakina, c'est Abraham qui nous disait dans le fil, probablement la fille la plus sous-estimée, effectivement, mais surtout parce qu'elle n'avait pas eu ses 2000 points de Wimbledon qui flouaient son classement. Elle arrive finalement dans le top 10 ce matin au 10e rang et on devra compter sur elle toute l'année. Et je pense qu'il y a plusieurs joueuses qui vont chauffer Swiatek cette année, je vous le dis. Rybakina l'a battue en Australie, donc ça va être intéressant de voir là, quelle performance ça va nous amener du côté américain dans les prochaines semaines.
Et Rybakina, bon, si on ajoute ses points de Wimbledon, elle est virtuellement dans le top 5.
Ben oui, exactement.
Il n'y aurait que quatre joueuses meilleures qu'elle au monde selon le classement de la WTA. Elle est encore tout jeune. C'est une fille qui pourrait très bien remporter plusieurs grands chelems d'ici la fin de sa carrière. Et dans le cas de Sabalenka, ben Nico, on en a parlé régulièrement au podcast. C'est une fille qu'on voit comme une future numéro 1 depuis très longtemps. On sait que c'est une fille extrêmement puissante. Et ben, c'est bien mérité dans son cas parce que je pense que qu'on n'attendait pas Sabalenka cette année. En tout cas, moi, je ne l'attendais pas cette année. Mais il n'y a personne qui est surpris qu'elle ait remporté ce titre-là.
Non, puis comme je disais à Max Van Hout sur les ondes de BPM Sport la semaine dernière, Sabalenka, c'est un mélange de férocité et de délicatesse. C'est-à-dire un peu très, très russe. Là, cette espèce de désir de vaincre, le feu dans les yeux, cette espèce de justement de férocité qui fait qu'elle est si puissante puis tellement difficile à affronter. Mais en même temps, on l'a vu avec de superbes amortis, des coups extrêmement délicats, extrêmement précis. Mais la grande différence, je pense, pour Sabalenka, ce qui fait qu'elle est maintenant une championne Grand Chelem, c'est au niveau mental. C'est cliché, le tennis, on le dit, ça joue 80% du temps dans la tête. Mais si on regarde le match contre Leila Fernandez en demi-finale du US Open et la finale en Australie, c'est deux joueuses complètement différentes. Souvenez-vous, lors de son premier jeu au service en finale, ça n'allait pas du tout. La balle ne rentrait pas. Elle était déséquilibrée complètement. Le sourire aux lèvres, en voulant dire, ça ne le fait pas, mais donnez-moi du temps, ça va arriver. Si elle avait été la même qu'au US Open il y a un an et demi, elle aurait complètement perdu son focus. Complètement.
Très juste, Nicolas.
Elle aurait été désalignée du début à la fin. Puis la différence, c'est ça. La différence entre une championne Grand Chelem et une perdante Grand Chelem, ça joue dans la tête.
Exact. On a vu le travail qu'elle a fait ces derniers mois pour y arriver. On sait qu'il y avait une fragilité à ce niveau-là. Et effectivement, une situation comme elle a vécu contre Leila, et Leila l'avait fait craquer littéralement. Elle avait perdu tous ses moyens au US Open. Et là, elle a réussi à améliorer cette facette de son jeu. Donc, bravo à cette grande athlète qui a réussi à passer un cap là, pour aller au plus haut niveau. Ça fait plaisir à voir, vraiment.
Et qu'elle est sympathique, Sabalenka. Ouais. C'est incroyable, là, je veux dire. C'est difficile de ne pas être charmé par cette femme-là parce qu'elle est tellement... Écoute, le sourire après la conférence de presse, elle faisait des blagues avec les médias. Évidemment, c'est facile dans un contexte où tu gagnes, mais il reste qu'il y en a qui sont peut-être plus stoïques. Et comme tu le disais, tu sais, c'est pas l'image traditionnelle du russe stoïque, typique. Là. Elle est tellement, mais tellement sympathique.
Oui,
radieux, c'est une bonne façon de le dire. Elle avait sa coupe de vin, puis elle disait, voyez, quand je prends un verre de plus, vous me faites répondre des choses plus drôles, alors peut-être que vous devriez me laisser boire. Ouais, vas-y, Nico.
Non, mais je le dis, et ça, Hugues va pouvoir l'ajouter, tu sais. Je pense, à mon humble avis, que Sabalenka va terminer l'année au premier rang mondial, et je pense que pour le tennis, elle va être meilleure que Swiatek. Je ne sais pas ce que Hugues va en penser, mais elle est déjà avec Nike, elle est déjà avec Wilson, plusieurs commanditaires. Elle est bonne. Swiatek, elle est douée, là, c'est pas ça le point. Elle a moins ce côté média, je pense. Puis pour le tennis, qui est en recherche là, de cette nouvelle reine depuis Williams, depuis Barty, Sabalenka, je pense, vient de tomber dans une niche extrêmement intéressante.
Hugues, tu veux ajouter?
Oui, je suis d'accord, Nico. Elle est... elle a cette espèce de sourire enfantin tout en étant une puissante athlète. Donc, elle a un très bon mix d'attributs très marketable. Donc, je pense que oui, c'est vraiment une belle championne qui va être bonne pour le tennis Sabalenka. Et je lui souhaite d'être là longtemps. Encore une fois, ce mélange de simplicité, ce petit côté enfantin, mais cette performance tout en puissance de l'autre côté, ça fait un mix vraiment intéressant. C'est un personnage intéressant à suivre.
Mais c'est parce que sur le terrain, l'attitude d'une vétérane, bon, je le rappelle, puis je le rappelle à chaque semaine, elle n'a que 24 ans, les gars. Elle est toute jeune encore. Donc oui, elle a l'image d'une fille peut-être froide, peut-être expérimentée, mais elle n'a que 24 ans. Donnons-lui du temps, puis j'aime cette espèce d'étincelle dans les yeux qu'elle a encore, puis qu'elle, j'espère, gardera longtemps.
Cela dit, dans cette question-là, ça s'applique également pour Swiatek qui n'a que 21 ans.
Tout à fait.
Qui a déjà deux titres Grand Chelem et qui a une séquence record de titres l'année passée. Alors, dans le cas de... C'est un argumentaire qui s'applique également pour Swiatek, mais j'avoue qu'au niveau de la personnalité, on la connaissait déjà un peu, là, mais elle a été... il y a quelque chose de bon pour le...
Allez, ouais, Charlotte, est... ben, je prends note que Isabelle partage sur notre fil. Elle a une vulnérabilité, puis c'est exactement ça. T'sais, c'est pas une fille qui est arrivée comme un rouleau compresseur jusqu'à gagner. Elle a passé par des étapes de déception. Je me souviens, c'était au US Open. Où elle était en larmes. Après, elle était complètement effondrée. Donc, elle a cette vulnérabilité-là qui fait qu'on s'attache à un athlète, justement. Donc, elle a passé ces étapes-là. Et là, je pense qu'elle est... Elle est prête à donner beaucoup au tennis, cette fille.
Messieurs, on va faire une courte pause au retour. On va parler de deux sujets rapidement, là, des surprises qui se sont passées dans ce tournoi-là. Et je veux qu'on vienne sur les gagnantes du double. Et on va revenir avec Isabelle Étier et Hugues Léger avec une chronique à la valeur du sport.
Vivez un séjour mémorable avec votre moitié pour la Saint-Valentin dans une des magnifiques suites de l'hôtel Montville. Leur offre spécialement conçue pour cette occasion inclura une nuitée, un souper 3 services pour 2 personnes, un petit déjeuner pour 2, une boîte de chocolat, des ballons et un départ tardif. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour réserver votre séjour. Venez prendre un verre au restaurant-bar Monem de l'hôtel Montville. Parfait pour une fin de journée après le travail ou pour un moment entre amis. De nombreux cocktails savoureux conçus pour la saison hivernale vous y attendent. Découvrez le menu sur le site hotelmontville.com.
Rapidement, messieurs, avant qu'on passe aux deux chroniques qui s'en viennent, je veux un mot sur Azarenka et Magda Linette qui en ont surpris plus d'un. Azarenka, la résurgence, et si vous avez parié sur Magda Linette pour se rendre aussi loin dans le tournoi, vous saviez quelque chose que nous, on ne savait pas. Nico, commentaire sur ces deux surprises-là du côté des femmes.
Ouais, c'est plus pour Azarenka, là, dans mon papier sur la presse. Dans 5 joueurs, j'ai surveillé au début du tournoi. J'avais identifié Azarenka pour la simple et bonne raison qu'elle avait fini très, très fort l'année dernière. Elle avait bien commencé, puis l'Australie, c'est chez elle. Ses deux premiers majeurs, elle les a gagnés là. C'est une fille qui revient de loin. On l'a vu là, au cours de la quinzaine. Elle est étincelante. Elle va assurément revenir dans le top 15. J'en suis convaincu. Elle pourrait même peut-être chauffer le top 10 au cours de l'année. C'est la Azarenka des beaux jours, la Vika que tout le monde aime. Puis les joueuses aussi, je lisais des commentaires sur Twitter. Un peu comme Andy Murray. Hein? C'est une joueuse qu'on a peut-être un peu oubliée, mais qui ressurgit de nulle part, du moins. J'espère qu'elle va être là un petit bout encore parce que Azarenka, j'ai grandi en la regardant. C'est une des premières joueuses que j'admirais du côté féminin. Puis de la revoir à un niveau pareil, ça a été vraiment, vraiment extraordinaire.
Oui. Ouais, ce qu'elle accomplit comme maman sur le circuit, ben, voilà. C'est pas banal. Là.
J'allais justement le dire, Alex, ça fait toujours plaisir qu'une joueuse qui est aussi maman réussisse à revenir au plus haut sommet. On voit qu'en 2023, que l'entourage a évolué aussi, qui fait qu'une joueuse peut être mère d'un enfant, deux enfants et de performer au plus haut niveau. C'est un retour vraiment rafraîchissant aussi de voir Azarenka se rendre loin sur un tournoi du Grand Chelem. Ça doit lui donner envie de continuer cette année et qui sait, ça pourrait pas nous surprendre. Moi, son niveau m'a vraiment impressionné. Bravo Azarenka.
Ben, elle n'est pas là pour jouer les figurantes non plus. On l'a vu. Puis Azarenka, c'est une compétitive féroce. Là. Elle n'est pas là. Si elle joue au tennis, un peu comme Andy Murray, je fais un pont, mais qui est tellement évident. Si Murray joue encore, c'est parce qu'il veut gagner des matchs de tennis. C'est pas compliqué. Là.
Mais c'est parce qu'il aime son sport. Murray le dit à plusieurs reprises. « I love this sport so much ». Le gars, c'est un vrai passionné. Il donne tout le temps. Quel bonheur de voir des joueurs comme Murray qui performent encore maintenant. Puis Azarenka, un peu la même chose. Effectivement, il y a un vrai parallèle à faire.
Oui, et pour Linette. J'allais juste brièvement pour Linette. Je ne sais pas si on va la revoir parce que ça, je pense que c'était vraiment une parenthèse dans la saison. Là. Ouais. Oui, Garcia, oui, c'est insolent. Pliskova, c'est peut-être un peu plus simple, mais contre Sabalenka, une fille qui est vraiment dans l'élite, ça a été vraiment plus compliqué. Là. Donc oui, chapeau à Linette, mais je ne suis pas convaincu qu'on va la revoir encore de finale de Grand Chelem cette année.
Je suis d'accord avec toi.
Par contre, ce qui est intéressant, c'est peut-être dans le cas de la Coupe Billie Jean King, parce que si on a une Swiatek polonaise et une Magda Linette polonaise, ben peut-être que ça pourra faire des...
Des flamèches.
Des flamèches, voilà. Voilà, voilà, voilà. 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 Et dernier sujet sur le tournoi, messieurs, je veux qu'on parle rapidement de Krejcikova et Siniakova, qui sont deux championnes qui ont passé par Repentigny et qui continue d'en faire, j'allais dire des miracles, mais qui continue de dominer en double. C'est une des meilleures paires des 3-4 dernières années en double, Nico.
C'est la meilleure paire. Mon seul regret par rapport à ça, c'est que j'aurais aimé une finale contre Pegula et Coco Gauff, qui se sont rendus quand même en demi-finale, mais de voir un affrontement entre la paire numéro 1 et la paire numéro 2, entre quatre joueurs qui n'ont rien à perdre et qui veulent gagner en double parce qu'elles savent qu'elles ont ce qu'il faut pour le faire. C'est mon seul regret, mais oui, Krejčíková, Siniaková sont seules au monde. À Roland Garros, ça devrait être encore elle. Au US Open, probablement aussi. C'est de toute beauté de les voir aller.
Et Isabelle nous disait en début d'émission qu'elle aimerait que certains tournois, certains médias parlent un peu plus de double. Ben voilà, Isabelle, on fait notre part et c'était déjà à l'horaire. Rapidement, Hugues, un mot sur les Canadiens. C'est un tournoi canadien. Bon, on en a parlé dans l'épisode précédent, un peu... pas décevant, mais en demi-teinte, oui. D'une certaine manière.
Pas décevant, mais décevant.
Non, ben c'est parce qu'il y a des adversaires qui étaient compliqués.
Ben oui, voilà. Aussi.
Rapidement, moi, je suis quand même encouragé du début de saison de Bianca Andreescu et de Leila Fernandez. Leila qui s'incline en deuxième tour quand même contre la quatrième mondiale, quatrième favorite, et Caroline Garcia, un 7-5-7-6. Elle a pas à rougir de cette performance. On voit une Leila en santé pour 2023 et ça, je suis très content. Bianca Andreescu, la même chose après un beau premier tour. C'était un peu plus compliqué au deuxième, mais elle a montré le tennis qu'on aime d'elle, un tennis d'attaque, un tennis où elle dicte les points avec beaucoup de panache. Donc, je suis vraiment encouragé du côté des filles. La déception, c'est peut-être Félix qui ne passe pas en deuxième semaine et qui ne respecte pas son statut de sixième favori. Mais il va rebondir, j'ai aucun doute là-dessus. Et chapeau Valov, belle entame de saison quand même. Je pense que son début de tournoi est encourageant. Donc, tournoi effectivement... Un peu dommage de ne pas avoir eu un Canadien en deuxième semaine. C'est ça que je retiens pour les Canadiens cette année.
Mais les gars, je vous l'ai dit lors de la première émission de l'année, surveillez Denis Shapovalov. La Coupe Davis l'a remis sur les rails. Oui. Son 5-7 contre Hurkacz est un match d'anthologie. Oui. Il va revenir cette année, au moins dans un quart de finale Grand Chelem. Voilà. On va le voir, je pense, dans chacune des deuxièmes semaines de chaque Grand Chelem, il regarde de la saison d'année.
Et Nico, si Félix n'a pas respecté son classement, Shapovalov l'a respecté en se rendant contre Hurkacz et il a failli battre Hurkacz en 5-7. Donc, c'est un très bon signe pour Shapovalov.
Oui, bien ça, je pense qu'on s'entend tous là-dessus. Messieurs, j'ajoute à la conversation notre collaboratrice fan de hockey et tennis, Isabelle Etier. Re-bienvenue au podcast Sur la ligne.
Ben, ça me fait plaisir de me joindre à vous. Je vous écoute depuis tantôt, puis plein de fois, j'aurais voulu rebondir, mais je suis d'accord avec vous, juste rapidement sur nos Canadiens. Je suis d'accord, Nicolas, je pense que Shapovalov, il faut vraiment le regarder. Je le sens bien plus ancré, tu sais, malgré sa grande émotivité, ce qu'on a de lui, sa fougue, puis il a besoin de ça pour pouvoir performer. Mais on dirait qu'il gère mieux ses émotions, puis je le surveille moi aussi de près, puis je pense que sur terre battue, il n'est pas piqué des verres, notre Denis.
Ben, les Canadiens, de façon générale, sont assez efficaces sur à peu près toutes les surfaces, là, mais ouais, je pense que ça va être bien intéressant de suivre Chapeau. Bon, Isa, on a parlé beaucoup de tennis féminin dans la deuxième partie du premier bloc. Et toi, ben, c'est un peu ce dont tu veux nous parler aujourd'hui parce que tu veux revenir sur un des grands moments, non seulement de l'histoire du tennis, mais de l'histoire du sport en général.
Et en fait, le Open d'Australie en ont profité cette année pour inviter les Original Nine, les neuf originales. Au hockey, on a les Original Six, il y a les six premières équipes. Mais si on regarde l'histoire du tennis féminin, c'est ces neuf femmes-là qui ont marqué, qui ont créé le tennis qu'on connaît d'aujourd'hui pour les femmes. Et je m'explique... En fait, on connaît tous l'histoire de tout passionné de tennis. C'est qu'il y a eu ce moment en 1970 où neuf joueuses menées par Billie Jean King qui se sont regroupées puis qui ont signé justement un contrat de 1 $ pour se sortir de l'ATP, là, de l'époque, là, excusez-moi. Puis qui ont décidé qu'eux, ils voulaient absolument avoir un endroit pour compétitionner, un endroit reconnu pour leur talent, pas juste pour leur look, puis vouloir vivre de leur sport. Fait qu'ils avaient créé le Virginia Slim Tour et là, ils ont commencé à jouer. Et moi, ça m'a donné envie de réécouter le film « The Battle of the Sex » qui est vraiment très bien monté. Bon, il y a quelques petits anachronismes dans le film, mais c'est pas grave, on commencera pas à à faire du sillage sur 2-3 ans. Reste que ce qu'elles ont fait, ces femmes-là, et c'est là 50 ans, là. On parlait d'équité. On voulait avoir des bourses équitables parce que les filles jouent, sont intéressantes. Et je trouve qu'il n'y a vraiment pas... on doit reconnaître ce que ces femmes-là ont amené pour le sport au féminin. Parce que là, 50 ans, on disait que c'était l'équité, c'était à la mode. 50 ans plus tard, on est encore en train de dire qu'il faut avoir une équité dans notre sport et c'est pas encore établi. Vous allez être d'accord avec moi, messieurs, que s'il y a plusieurs tournois où ce que les bourses sont les mêmes, il en reste encore beaucoup trop qui ne le sont pas, bien que le tennis est le sport qui est le plus équitable, où ce que justement dans le top 10 des athlètes les mieux rémunérés, on retrouve cette femme au tennis.
Oui, c'était très le fun de voir Rod Laver et Billie Jean King et Ken Rosewald d'ailleurs qui a remis le trophée du côté masculin. Mais Billie Jean King, elle dit toujours qu'il faut rêver grand. Et c'est intéressant qu'on la voit encore en 2023, tant de décennies après, de voir encore faire ce même discours-là. Parce qu'effectivement, quand on sort des grands chelems qui ont été assez rapides à prendre la balle au bon sur les equal prize money, il nous reste encore un bout de chemin à parcourir. Et je sais que la WTA, pour les WTA 1000, est en train de régler la situation. Donc, les quelques tournois qui n'étaient pas en mode 10 jours, dont Montréal, vont arriver dans ce mode-là. Et je crois que Montréal, peut-être dès cette année, va être en equal prize money. C'est une très bonne chose. Et toi, comme nouvelle joueuse et fan, un peu, comment tu vois l'héritage de Billie Jean King sur le sport en général et sur le tennis, Isabelle?
Ah mais c'est gigantesque ce qu'elle a, tu sais, elle continue encore à être omniprésente. Si je regarde du côté du hockey féminin, justement, la fondation Billie Jean King est derrière la PWHPA, donc qui est l'Association des joueuses professionnelles. Et là, rapidement, là, on dit, oui, mais la force de Montréal, l'équipe professionnelle, c'est deux associations dans le fond. Là, il y a plusieurs enjeux là, dans ça, puis on ne commencera pas à expliquer tout le débat au niveau du hockey. Mais oui, cette femme-là, ces femmes-là, en fait, elles ont été leadées par Billie Jean King, mais je pense que c'est important de se rappeler qu'elles étaient quand même neuf à avoir eu le courage, la conviction de faire changer. Et tantôt, tu parlais de maternité et de femmes athlètes. Et ça, c'est un enjeu partout. Puis quand je regardais le film pour amener le pourquoi, puis je vous invite vraiment à le revoir. Si vous l'avez vu, allez le revoir. C'est vraiment intéressant. Ça nous met dans un mode. Et toute personne qui a envie de s'intéresser au tennis, ça peut être intéressant de juste comprendre à l'époque le courage que ça prenait de faire ce geste-là. Et tu sais, Margaret Court, qui était sur le tour et qui avait un enfant. T'sais, elle se promenait, bon, est-ce que on s'entend, c'est romancé, mais il reste que ça a été quand même une réalité que les femmes devaient avoir et sont entourées. Fait que, bref, moi, je veux juste qu'on prenne le temps d'en parler. C'est les 50 ans cette année de la WTA. Puis sans cette mouvance-là, on ne serait pas rendu où qu'on est aujourd'hui dans le tennis et aussi dans les autres sports.
Absolument, Isabelle. Puis tu as raison de mentionner dans les autres sports, c'est là que je m'en allais. Parce que Billie Jean King, she walks the talk. Hein, on dit les bottines suivent les babines au Québec. Donc, elle investit dans plusieurs domaines du sport féminin. Tu l'as mentionné au niveau du hockey, au niveau du soccer aussi. Donc, c'est une personne formidable, tant au niveau sportif que pour la société en général. Et c'est important qu'elle soit encore là pour porter ce discours-là en 2023. Et c'est pour ça qu'on l'a invité avec Tennis Canada à participer à ces deux Montréal l'été passé. Donc, merci beaucoup, Isabelle. Super, super point. Moi aussi, j'étais fier de voir 7 des Original 9 à Melbourne. Là, c'était un beau moment. Ça fait des belles photos. Et de voir Billie Jean remettre le trophée à Sabalenka, c'est un très beau moment.
Mais tu sais, il faut se rappeler aussi, puis là, je fais le pont, tu parles Original 9, Title 9 aussi, qui faisait
comme
l'année dernière. Puis Title 9, j'ai étudié ce... Parce qu'il y en a pas pour moi que c'est un amendement. Ça, à l'époque, en 72, le Congrès américain a passé un amendement, donc une loi qui dit qu'on ne peut faire de la discrimination dans le monde du sport sur la base du sexe. loi qui perdure toujours parce qu'en théorie, il n'y a pas de discrimination proprement dit parce que dans la NCAA notamment, où le projet est parti, on voit des équipes féminines de soccer, de basketball, de hockey, mais aussi au niveau de la parité, de l'attention médiatique. Puis je pense que le combat présentement, il est là. Au niveau du financement aussi, rappelez-vous, March Madness, il y a 2 ou 3 ans, je pense, on a vu une vidéo virale circuler montrant le gymnase des gars et le gymnase des filles qui avaient 2 haltères et une corde à sauter. Ça n'avait aucun bon sens. Fait que oui, légalement, les gars et les filles sont égales, mais sur le plan de la représentation, je pense, puis Isabelle, tu vas être mieux placée que moi pour en parler, il est là le combat, là.
On va pouvoir y revenir, je suis convaincue, au courant de l'année sur le débalancement dans l'équité puis les installations, mais reste que grâce à ce Title IX-là, cet amendement-là, il y a quand même eu des progrès aussi au niveau du développement du sport du côté américain et il y a eu certaines choses qu'on pourrait apprendre de notre côté ici au Canada.
Ben, c'est la plus grande athlète, à mon avis, à moi, de tous les temps. Et moi, je reste gravé dans ma mémoire cette rencontre que j'ai eue avec Hugues. Et ben, Isabelle, tu étais là aussi, tu as pu la voir de très près aussi. On n'en parlera jamais assez de ce qu'elle a fait pour le tennis. Et ben, c'était un moment parfait pour revenir. Elle était d'ailleurs à la remise de trophée Billie Jean King. Alors, merci infiniment, Isabelle, pour ta chronique. Et puis, on te reparle plus tôt que plus tard et tu lâches pas ton bon travail.
Merci.
Salut, Isabelle.
Bye.
Hugues, de ton côté également, bon, on en a parlé à quelques reprises depuis le début de l'émission. C'est un départ en demi-teinte au niveau des cotes d'écoute d'intérêt pour le tennis, et ce, malgré un gros splash avec Netflix en début de saison.
Oui, je pense que les officiers des circuits ATP, WTA, ITF s'attendaient à un meilleur début de saison, je vais le dire directement, parce que j'ai commencé à avoir des chiffres, là. Vous savez que je suis ça de très près tout le temps. C'est un début de saison un peu plus difficile que prévu. C'est toujours un peu compliqué parce que, bon, l'Australian Open se joue à l'autre bout du monde pour le côté américain. C'est plus compliqué au niveau audience, mais il faut qu'on compare des pommes avec des pommes. Donc, nous, on compare 2023 avec 2022, 2021. Et il y a une baisse au niveau des audiences. Je vais commencer directement sur ça. On parle d'une baisse de 20 % du côté américain entre la finale 2022 qui opposait, on s'en souvient, Nadal à Medvedev, qui était une grande finale. Mais on avait un moment historique avec Djokovic aussi cette année. Et malgré ça, baisse des audiences de 20 %. Même chose au niveau local, il y a eu un gros contrat télé qui s'est signé du côté de l'Australie pour une chaîne locale. Et évidemment, ils avaient en mémoire évidemment les performances de l'année passée de Ash Barty et de Kyrgios, donc des grands joueurs australiens. Donc je pense que ça a influencé un petit peu leur choix et les baisses d'écoute au niveau local en Australie, la même chose, moins 20 % malgré qu'il n'y a pas de décalage horaire évidemment. Donc il y a un enjeu encore une fois là sur l'intérêt que ce tournoi-là a eu cette année. Et encore une fois, est-ce que Djokovic peut tirer et ceux qui sont là en ce moment peut tirer au même niveau que des Federer, que des Nadal ou d'autres joueurs comme peut-être plus l'affection du public. Évidemment, si Kyrgios avait été là, ça aurait pu aider, mais c'est décevant pour les gens du tennis d'arriver avec des audiences de moins 20 % et on sait que les médias ont des compensations à payer parce que tu vends en pré-analyse des chiffres. Donc, les chiffres étaient prévus à la hausse cette année ou au minimum autant que l'an passé. Et là, il va y avoir des compensations à payer parce que les chiffres n'ont pas livré. Donc, moins 20 % sur les audiences télé du Australian Open. Ce qui m'amène à parler de Netflix Breakpoint, évidemment, parce que les premières données sont sorties aussi. Malheureusement, bon, on sait que tous les joueurs qui avaient été choisis, toutes les histoires qu'on voulait suivre là, avec les 10 protagonistes joueurs et joueuses dans Netflix ont été éliminés avant la deuxième semaine. Breakpoint n'a pas percé le top 10 dans aucun pays pour Netflix, donc dans les semaines de diffusion. Et ça, c'est un échec pour Netflix. Donc, on souhaitait un effet Drive to Survive. Souhaitons que la deuxième séquence qui va arriver en juin va venir rétablir un peu la situation. Mais les premiers épisodes de Netflix n'ont pas percé le top 10 des meilleurs du palmarès Netflix là, dans aucun pays au niveau mondial. Donc, ça aussi, c'est une petite déception, je pense, là, pour le début d'année. Donc, ça, c'est mon point sur Netflix et sur Breakpoint. Et je continue sur le volet commandite et chiffres. Je dois souligner, puis je le faisais en début, que Lacoste est resté avec son poulain Djokovic dans, pour le meilleur et pour le pire à travers la saison 2022. On se souvient de ce qui s'est passé de son extradition d'Australie, du fait qu'il puisse pas jouer en sol américain aussi l'an passé. Mais Lacoste est resté toujours là. Et bravo à Lacoste d'avoir préparé ce beau jacket numéro 22 en prévision de sa victoire. Et moi, étant un gars de marketing, je regarde qu'est-ce que j'aurais fait il y a un an avec Djokovic. Et je pense que je n'aurais pas continué l'association dans le contexte qu'on pouvait vivre encore au début de l'année 2021. Et je lève mon chapeau aux gens de marketing et de marque chez Lacoste qui sont restés avec leur poulain. Et je pense qu'ils vont récolter les fruits. Ils ont entre les mains le plus grand joueur de tous les temps au niveau des chiffres. On s'entend. On aime ou on n'aime pas Djokovic, mais je pense que pour Lacoste, c'est une commandite qui fait plein de sens. Et c'est très bien qu'il continue.
Mais en même temps, est-ce que Lacoste avait le choix de quitter ou non Djokovic, c'est-à-dire que Lacoste n'est pas sur le marché ce que Nike ou Adidas est. Tu sais, je me rappelle d'Andy Roddick à l'époque, mais outre ça, je pense qu'il y a Annette Contaveit aussi qui est avec Lacoste, mais outre ça, c'est assez mince là, sur le circuit, comme on dit, de Lacoste. Donc, est-ce qu'ils pouvaient, eux, se priver de Djokovic?
Bon, d'une part, il y a les clauses du contrat que je ne connais pas, mais effectivement, Nico, tu as raison, Djoko est leur ambassadeur mondial. Lacoste est une marque qui fonctionne bien quand même dans plusieurs pays, surtout en France, avec des joueurs français historiquement. Je pense à Richard Gasquet, par exemple, qui joue avec Lacoste depuis très longtemps ou qui a joué avec Lacoste depuis très longtemps. Mais ils ont besoin de Djokovic pour ce statut de marque internationale au niveau technique. Hein, tout le monde connaît le polo Lacoste. Il y a beaucoup de gens qui le portent, mais les habits, les vêtements techniques de Lacoste, leur ligne technique est importante pour eux et c'est Djokovic qui est leur porte-parole, évidemment, pour ce segment-là de leur portefeuille au niveau produit. Donc oui, ils ont besoin de Djokovic, mais la ligne est fine tout le temps. Et, encore une fois, l'appréciation de la marque vient avec l'appréciation du joueur. Donc, si la marque Djokovic fait mal à la marque Lacoste, c'est un problème. Et on était sur une ligne extrêmement fine il y a un an au niveau de son statut vaccinal. Encore une fois, je te dis, il y a eu des meetings de crise. Je suis convaincu chez Lacoste et ils ont décidé de rester avec leurs joueurs. Et je le redis, je crois qu'avec le recul, ils ont pris la bonne décision, mais ce n'était pas une décision évidente à prendre.
Mais je reviens à ce que tu disais d'entrée de jeu en entente de conversation par rapport au code d'écoute là, puis aux chiffres qu'on avait donnés puis aux prévisions qu'on avait faites. Je trouve ça étrange, puis tu sauras me contredire, qu'on n'avait pas prévu une baisse. C'est-à-dire que sans Federer, avec un Nadal peut-être un peu plus égratigné, un peu moins épargné, possiblement Djokovic, je trouve ça bizarre qu'on ait projeté des chiffres à la hausse. Oui, il y a Netflix, mais Netflix ne change pas tout. Tu sais, je me dis, lorsque Tiger Woods va prendre sa retraite, assurément que les gens du PGA Tour vont s'attendre à des cotes d'écoute plus basses. Comment se fait-il qu'on avait encore dans les bouquins une espèce d'augmentation
en prévision? Les ventes publicitaires sont faites longtemps avant le tournoi. Donc, quand les ventes publicitaires étaient en cours pour acheter le tournoi, parce qu'ils veulent vendre le plus vite possible, évidemment, quand la programmation est annoncée, s'il y a un nouveau diffuseur achète les droits, ce qui était le cas en Australie cette année, tout le monde pensait que Kyrgios jouerait, donc c'est pour les Australiens surtout, et que Nadal serait probablement là aussi. Donc, il n'y avait pas de… Tu sais, quand les achats quand les ventes publicitaires sont faites, les tableaux ne sont pas connus. Les annonceurs ont déjà investi à ce moment-là. Donc, je pense que dans les prévisions, les détenteurs de droits de diffusion et les diffuseurs se sont dit, ça va être un tournoi qui va faire très bien. Il va avoir une progression au niveau audience encore cette année. Et finalement, les résultats et les tableaux et les joueurs en place ont fait que les résultats ont pas été là et que l'intérêt des audiences n'a pas été très bonne. Cela dit, sur le site, je crois que les ventes de billets ont atteint un niveau record sur place quand même. Donc ça, c'est la bonne chose. On parle des audiences télé, mais c'est vraiment ça qui c'est là où sont les gros sous. Est-ce que les commanditaires, est-ce que les annonceurs, est-ce que les diffuseurs sont là? Et sur cet élément-là, quand les post-mortem vont être faits, l'édition 2023 au niveau audience va être une déception.
Puis est-ce que le fait qu'on en parlait tantôt avec Sabalenka, puis c'est une question qui est revenue, là, j'écoutais, je pense que c'est sur ESPN qui disait, oui, du côté masculin, c'est pas mal toujours ça qui a runné le show. C'est-à-dire que le côté masculin, l'ATP, c'est eux qui tirent les grands chelems. Mine de rien, parce que les meilleurs joueurs, parce que Djoko, Nadal, Federer. Est-ce que le fait qu'il n'y a pas encore de femmes de l'ampleur d'une Williams, d'une Sharapova, d'une Margaret Court, d'une Navratilova, nuit pas, ou du moins aide pas dans une certaine mesure à attirer plus de gens pour ces finales-là, parce que je suis convaincu que même si, d'un point de vue tennistique, la finale féminine était de loin meilleure que la finale masculine, oui, je suis sûr qu'on est dans le rouge.
Ben oui, les spectateurs sont pas vraiment attachés à une joueuse en ce moment. Swiatek, malgré toutes ses performances, puis c'est une fille intelligente, c'est une fille géniale à tout point de vue, il n'y a pas un intérêt grand public qu'une Serena Williams pouvait générer, ou une Maria Sharapova, ou même une Naomi Osaka. Donc, c'est plus compliqué en ce moment là, de ramener des audiences de ce que j'appelle des casual fans, qui ne sont pas des gens qui sont mordus comme nous, on peut l'être, pour faire en sorte que l'intérêt et que les codes d'écoute soient là. Donc, je pense qu'une Sabalenka, on en parlait plus tôt, aura ce pouvoir-là, mais elle doit être connue un petit peu plus. Sa notoriété, ouais, elle n'est pas si grande que ça, Sabalenka, quand on sort des cercles d'experts et de grands amateurs du tennis. Mais même chose pour Rybakina. Je pense que c'est une fille qui est extrêmement bonne pour le tennis, mais elle gagne à être connue. C'est tout nouveau encore. Et dans le top 10, il n'y a pas tant de star appeal que ça. Il y a peut-être Coco Gauff, il y a Badoza qui est là, mais il faut des performances, puis il faut de la constance pour arriver à ce niveau-là. Et je pense qu'on n'est pas rendu là du côté du top 10 encore pour que les audiences au niveau du tennis féminin reviennent au plus haut niveau.
Oui, c'est pour ça que la WTA devait souhaiter un retour d'Ashley Barty, peut-être là, dans un retour inattendu de Barty, la héroïne
pas pour ça.
Merci, messieurs. On va faire une courte pause. Au retour, on regarde ce qui s'en vient la semaine prochaine.
Vivez un séjour mémorable avec votre moitié pour la Saint-Valentin dans une des magnifiques suites de l'hôtel Montville. Leur offre spécialement conçue pour cette occasion inclura une nuitée, un souper 3 services pour 2 personnes, un petit déjeuner pour 2, une boîte de chocolat, des ballons et un départ tardif. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour réserver votre séjour. Venez prendre un verre au restaurant-bar Monem de l'hôtel Montville. Parfait pour une fin de journée après le travail ou pour un moment entre amis. De nombreux cocktails savoureux, conçus pour la saison hivernale, vous y attendent. Découvrez le menu sur le site hotelmontville.com.
Hugues, c'est terminé pour Melbourne, mais qu'est-ce qu'on surveille la semaine prochaine?
Ben là, moi, j'ai bien hâte de voir Félix qui va défendre son titre à Rotterdam dans 2 semaines. Donc, c'est un élément important. Il y a un petit creux de vague cette semaine. On va voir Metz et Montpellier. On va voir Montpellier et Marseille du côté français, qui donnent toujours des confrontations intéressantes avec des joueurs français, avec des joueurs canadiens aussi. On verra qui sera là. Mais c'est ce qui s'en vient là, pour les prochaines semaines. Mais là, il y a un petit creux de vague. Et il y a une séance de qualifier cette semaine en Coupe Davis aussi. Donc, on repart tranquillement après le premier grand chelem de la saison.
Ouais, ce serait intéressant de voir si Félix va pouvoir défendre son titre à Rotterdam. Cela dit, messieurs, c'est déjà la fin de l'émission. Je vous rappelle qu'on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado. On est également diffusé tout le lundi soir au BPM Sport. Et comme c'est la tradition, eh bien, Nicolas Richard, je te donne le mot de la fin.
Bon tennis, Alex. Bon tennis, Hugues. Bon tennis, Isabelle. Et bon tennis, tout le monde.